Les Audacieux sur la première. Les Audacieux, Florence Farion, David Golan.
En ce jour, ils sont deux. Rencontre avec un couple qui a changé de vie. Il faut aller à Neuchâtel pour les rencontrer. Ils sont devenus des spécialistes du tantra. Ils donnent des conférences, pratiquent des stages et connaissent un joli succès. Martine et Michel Berger m'accueillent donc dans leur espace où ils ont convié ce jour-là une vingtaine de participants pour un cours de méditation active. Et si vous fermez les yeux, vous allez peut-être partir en méditation. Et si vous dormez, peut-être que leur histoire va vous réveiller.
Voilà. Donc vous pouvez laisser vos sacs ici, j'ai fermé la clé, il n'y a pas de problème.
Toutes les chaussées, puis on va passer à côté.
On va passer à côté. Salut. Donc téléphone coupé, vous y avez pensé à tous, et puis on va y aller tranquillement.
Okay. Michel, donc aujourd'hui, méditation active. Méditation. Pour moi, les deux mots ne vont pas forcément bien ensemble.
Ah si, très bien. Ouais, parce que en Orient, c'est pas un problème de rester 2 heures assis sans bouger en faisant rien. Hein. Mm-hmm. Mais ici en Occident, c'est plus difficile, hein, parce que tout de suite il y a le brouhaha qui se met en marche dans la tête. Hein. Alors c'est pour ça qu'on a développé des méditations actives, des méditations qui travaillent sur ce qu'on appelle les trois clés, le souffle, la voix et le mouvement.
Voilà.
Comme ça, le mental a à manger.
Voilà. Et dans ces méditations, on sollicite beaucoup le corps. Hein, parce qu'on part du corps, là.
Ouais. Alors, merci tous d'être là. On va vous proposer aujourd'hui une méditation qui s'appelle le chakra sound. Nous allons travailler notre voix et notre respiration. Et dans cette méditation du chakra sound, déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un chakra ? Notion de chakra, c'est connu pour tout le monde ? Bon. Alors, vous allez envoyer un son sur chacun des chakras. On va commencer par le chakra racine, ensuite le hara, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Et à chaque fois, vous visualisez comme si vous envoyiez ce son dans ce chakra. L'idée, c'est pas de faire un son très fort qui va couvrir la voix des autres. Hein. C'est tout en fermant les yeux, trouver le son qui vous semble être à hauteur du chakra concerné. Alors il y en a, vous allez le sentir très simplement quand on est dans le chakra du cœur, quand on est dans le plexus ou dans la gorge bien sûr. Quand on est dans le chakra racine ou dans le hara, c'est peut-être moins évident. Mais ce qui est important, c'est l'intention que vous envoyez quand vous êtes dans ce travail sur le son. Et le son, vous l'envoyez sur chaque expiration. D'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir une position où vous allez être confortable, les jambes légèrement écartées, le bassin détendu, les épaules relâchées. Vous allez fermer les yeux et vous allez donc travailler sur l'envoi de ces sons sur chacun des chakras. Une musique va nous accompagner. Et comme vous êtes tous différents, vous allez tous les
Michel, le tantra, en fait, le tantra, c'est une discipline que vous enseignez, on peut le dire comme ça ?
Oui, on enseigne depuis plusieurs années, depuis 2001, en fait. Voilà, donc au départ, c'était un besoin de reconnecter le couple dans lequel j'étais. Finalement, ma compagne, elle a continué autre chose. Moi, j'ai continué le tantra. Et ça m'a fait tellement de bien que j'ai fini par l'enseigner à partir de 2001, quoi. Mmh. Ouais. Donc ça fait maintenant 15 ans.
Ouais. Et le tantra, c'est plein d'images. Fausses, vraies, je sais pas, on va trier. Mais c'est vrai que le tantra, ça a comme ça une sorte de réputation un peu étrange.
Oui, il y en a beaucoup qui pensent que tantra égale sexe. Mmh. Alors on a donné des conférences pour mettre ça au point. Dans les textes anciens du tantra, un des textes les plus anciens qui date du 8e siècle, qui s'appelle Vijnanabhairava, qui veut dire quelque chose comme la conscience absolue. Il y a 112 pratiques, dont 3 seulement parlent de sexe. Hein. Mm-hmm. Donc c'est beaucoup plus vaste.
Donc, mais on a retenu ça, bêtement.
Oui, on a retenu ça, et puis certaines personnes ont besoin de rattraper une adolescence qu'ils n'ont pas eue, donc ils ont besoin de travailler leur sexualité, surtout. Ouais. Et il y a aussi des enseignants qui pratiquent surtout l'approche sexuelle. Ouais. Mais disons, ça va beaucoup plus loin. On parle de méditation, on parle de développement personnel, et plein d'autres choses. Hein. Donc dans les stances, disons dans les 112 pratiques qui sont proposées, ça va de la contemplation d'une plume de paon, à accueillir un ami qui était loin pendant longtemps. Voilà, donc ça c'est une façon de méditer, c'est d'éternuer. Hein. L'éternuement c'est une des méditations les plus puissantes, parce que quand vous éternuez, c'est sûr que vous ne pensez pas à vos impôts, par exemple. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de pratiques qui cherchent toutes à nous faire revenir dans notre corporalité d'une part et dans la présence, hein, d'être vraiment là. Ouais.
Parce que la tête et le corps sont déconnectés. Martine Berger, c'est notre grand mal, un de nos grands mots.
C'est une grande difficulté en Occident, surtout, parce qu'on a surtout valorisé le mental, l'intelligence, et que le corps a été bien souvent diabolisé, notamment dans l'approche judéo-chrétienne, hein, où il y avait la partie haute du corps au-dessus du nombril qui était tout à fait intéressante, et la partie basse qui a été quand même assez diabolisée. Donc l'intérêt dans le tantra, qui parle d'énergie sexuelle plus que de sexualité, c'est sans doute là d'où vient la confusion. Hein. Quand on parle d'énergie sexuelle, le raccourci a été de penser qu'on ne fait que de la sexualité. Or l'énergie sexuelle, elle nous sert à être simplement vivants, elle sert à mettre en œuvre des projets, elle sert à la créativité, elle sert à tout un tas d'éléments dans notre projet de vie. Et c'est vrai que dans l'approche tantrique, le corps est énormément mobilisé pour permettre justement de sentir cette énergie circuler dans le corps et de se sentir vivant. Et quand on est dans cette corporalité, on est d'une part tout à fait proche de nos émotions, et ça permet aussi de célébrer et de libérer des émotions retenues comme la tristesse ou la colère, qui sont souvent connotées comme des émotions qu'il ne faut pas exprimer, parce que si on est gentil et bien élevé, ça ne se fait pas. Donc là, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de bien, de mal, ou ça se fait, ça se fait pas, tout est ok. Parce que ça permet à chaque personne de retrouver un peu son intégrité dans sa façon de s'exprimer et de vivre, surtout. Alors ça bouge beaucoup, et puis ça amène aussi parfois à certains changements de mode de vie, en prenant simplement conscience que tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, c'était pas nous. C'était les injonctions, c'était des loyautés inconscientes, c'était des croyances. Donc ça bouge beaucoup, on appelle ça la voie du courageux, pas pour rien, hein, parce que ça brasse énormément au niveau de tout ce qui est en nous et qui nous appartient pas forcément.
Je vous propose de prendre vraiment de l'espace. Michel a mis les coussins un peu près, donc prenez de l'espace dans la salle. Hein, juste, prenez votre espace dans lequel vous êtes confortable. Et on va lancer la musique. Il y en a qui peuvent se mettre au centre, vraiment. Et mettez-vous confortable, les yeux fermés, sans jugement. Et on commence par le chakra racine, le chakra du sexe. Vous envoyez ce son sur l'expire.
Le tantra, c'est même une partie essentielle du tantra, c'est la méditation. Même l'idée, c'est de devenir méditant toute la journée, que n'importe quoi que vous fassiez devienne une méditation. De tenir le microphone, par exemple, vous en faites une méditation. De faire la vaisselle, hein, tout dépend, il y a une nuance subtile, tout dépend de la manière dont on le fait, la conscience dont on le fait. Hein, donc faire la vaisselle, ça peut être une méditation si on le fait en conscience. Faire l'amour, ça peut être une méditation en conscience. Ouais.
Donc en fait, tout est dans l'ici et maintenant, et la conscience que je mets à l'instant où je fais tel ou tel geste, telle ou telle chose, je reconnecte la tête et le corps.
Voilà, c'est ça. Donc la méditation, c'est vraiment la présence, c'est vraiment être ici, maintenant, vraiment là, ouais, être vigilant, ouais, Aussi des méditations, si on remarque que ça endort les gens, on change, on fait autre chose. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes plus vigilant, vous êtes plus dans la présence véritable. C'est vraiment l'idée de mobiliser chacun des chakras, de mobiliser aussi la symbolique des chakras, donc ce qu'ils représentent, et ça permet de revenir dans le corps. Donc pour le tantra, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la noblesse du corps. Hein, donc même si c'est une démarche aussi spirituelle, on part toujours du corps. Voilà. Donc ça permet vraiment de prendre conscience du corps, et cette vibration, elle met vraiment tout le corps en mouvement, et voilà, ça donne souvent une grande chaleur à l'intérieur de soi. Hein. Ça permet aussi d'ouvrir ce qu'on appelle la flûte intérieure, hein, donc qui est une sorte de canal qu'on peut imaginer à l'intérieur de soi, hein, qui peut même être très concret. Et puis Margot Anand, une femme qui a beaucoup développer le tantra en Occident, dit que les chakras, en fait, c'est un peu comme les ouvertures de la flûte, de cette flûte intérieure.
Comment c'était pour vous cette méditation, si vous avez envie de partager ? Votre ressenti ?
Lumineux.
Très agréable et ressourçant. J'ai d'ailleurs failli m'endormir. J'ai dû lutter plusieurs fois.
C'est toujours un bon baromètre intérieur. Et pour moi, cette fois, je sentis que j'étais très ancrée et pas du tout dans le ciel. Donc voilà, je vais pouvoir rééquilibrer.
Moi, j'ai bien aimé être portée par les sons des autres et puis à la fois être pour moi. C'était intéressant. Puis tout à coup, il y avait des dissonances. Puis après, il y avait des espèces de beaux accords. J'ai bien aimé.
Moi, j'ai senti une agréable énergie, une chaleur qui a augmenté au fur et à mesure de la méditation. Et ça m'a apporté en même temps justement cette énergie et en même temps aussi une détente très agréable.
Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée au son, surtout au son de tout le monde et de moi-même.
Très agréable, beaucoup de détente et le mental au repos.
Apaisé, centré, énergétisé. Très beau moment. Ce qui est surtout intéressant, c'est la résonance avec avec l'intérieur, la mise en résonance. Très bon moment, mais prêt à repartir. Oh.
Chacun des participants a vécu son moment grâce à cette séance de méditation active menée par Martine et Michel Berger. Leur plaisir est de transmettre, donner des cours, des conférences à deux, car leurs changements de vie ont toujours été parallèles. Ils ont concrétisé en se rencontrant. On les retrouve dans quelques minutes.
Les gens disaient parfois que nous étions fous alliés, mais le vent nous emmenait toujours où nous voulions aller. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Et le ciel. Les trains transpercent l'aube claire, et nous avions de grandes idées. Convaincus de convaincre les navetteurs de ne plus aller travailler. Et le ciel, plus grand aujourd'hui. Et le ciel plus grand. Je quittais l'hôpital immense et la moindre lueur m'enchantait. Étonné que j'étais de voir la vie recommençait. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Et le ciel, plus grand. Et le ciel, plus grand qu'aujourd'hui. Mais quel ciel.
Le ciel, c'était Nicolas Michaud.
Ils ont osé, ils ont changé, les audacieux prennent la parole sur la première.
Depuis 2001, Michel enseigne le tantra. Quelques années plus tard, Martine est venue le rejoindre. Ils sont à Neuchâtel. Ils ont vécu chacun leur changement de vie, avec concrétisation plus marquante pour Martine qui a tout, mais alors tout changé.
Avant, d'une part, j'habitais Paris. J'étais directrice de pub d'un magazine de développement personnel qui s'appelle Psychologie. Donc je me suis occupée du lancement de ce magazine et j'y suis restée plus de 10 ans. Et sinon, j'ai passé plus de 30 ans comme communicante. J'ai travaillé dans la publicité, donc d'un métier hyperactif que j'ai adoré, qui m'a beaucoup plu. Et ceci étant, quand j'arrivais à la quarantaine, j'avais conscience que je ne ferais pas toute ma vie dans cet univers un peu jeune, un peu hyperactif et qui me fatiguait. Donc j'ai commencé à faire des formations à droite à gauche, de massage, j'ai fait du shiatsu, j'ai commencé le tantra aussi. Et quand j'ai commencé le tantra, je sentais que j'arrivais... Là, ça a été vraiment la chose qui m'a le plus bousculée dans ma vie et qui m'a donné envie de faire du changement et de changer quelque chose dans ma vie en me disant « mais moi, faut que je passe à autre chose ». Et l'univers m'a entendu, comme on dit, hein. C'est que j'ai eu une opportunité de partir, d'arrêter. Et c'était un peu concomitant au moment où j'ai rencontré Michel. Donc j'ai à la fois quitté mon travail, quitté mon pays, et je me suis lancée dans le tantra et dans les pratiques de massage que j'avais apprises et que je n'utilisais que pour mes amis à droite à gauche. Donc c'était un petit peu un saut à la fois espéré, attendu, mais je dois avouer que par moment j'avais un petit peu d'appréhension en me disant mais est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est donc voilà, c'est pas toujours si simple, hein. J'étais à la fois très contente et un petit peu d'appréhension, surtout en me disant est-ce que je fais pas une bêtise sur le plan matériel pour assurer la continuité des études de mes enfants, etc. Et puis non, ça voilà, ça s'est dissous assez vite et je suis très contente d'avoir fait ce changement. Je suis très heureuse d'accompagner parce que j'aime beaucoup les gens. Et je dois avouer que quand on anime tous les deux, d'une part, c'est un plaisir de le faire ensemble. Je crois qu'on a cette capacité, d'une part, que ce soit très fluide entre nous. Ça apporte quelque chose de nouveau aux gens qui viennent, parce qu'il n'y a pas tellement d'animation qui se font en couple. Donc on est un vrai couple, on n'est pas un couple d'animateurs, on est un vrai couple dans la vie aussi, ce qui rend sans doute plus crédible tout ce qu'on propose.
Dans cette vie d'avant, c'était donc vie à la parisienne avec un rythme, avec tout ça, c'était un vrai choix dans lequel vous vous êtes senti bien pendant des années, oui. Il y a eu vraiment des belles années.
Ah, moi j'ai adoré cette excitation, j'ai eu la chance de travailler dans une époque où c'était assez facile la pub, où ça bougeait beaucoup, j'ai eu la chance d'avoir de très beaux budgets, d'avoir de belles responsabilités, donc je renie pas du tout ma vie d'avant. Mais c'est vrai que cette vie a changé, que moi aussi, et qu'à un moment j'aspirais à autre chose. Et la chose qui est précieuse aujourd'hui, c'est le temps. C'est vraiment le luxe de ce temps que je peux passer aussi bien avec mon partenaire que du temps que je peux accorder aux personnes qui viennent me voir, parce que j'ai aussi un cabinet de thérapie à côté. Donc ça me nourrit beaucoup. Intellectuellement, émotionnellement, ça, j'avais besoin de ce temps.
Donc Michel, vous faites partie des raisons pour lesquelles Martine a changé de vie, clairement.
Vous assumez.
Tout à fait, oui. J'en fais partie, oui, puis ça m'a aussi fait changer de vie, hein, donc, ouais.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 10 ans qu'on s'est rencontrés, oui. Mm-hmm. Ouais, donc depuis, on vit ensemble, on fait ensemble, on a nos rituels ensemble. Hein. On n'éteint jamais la lumière sans s'être bien regardé dans les yeux. Mm-hmm. Voilà, c'est un petit rituel, mais qu'on aime beaucoup. Hein.
Donc, quelle était votre vie d'avant, Michel?
Ma vie d'avant, en fait, je la continue encore un peu. Hein. Donc, j'ai un bureau d'ingénieur. Donc, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait l'école polytechnique de Zurich. Et j'ai fait quelques grands projets en informatique de développement. J'ai créé mon bureau il y a 34 ans. Tu vois, j'ai eu jusqu'à une douzaine d'employés, maintenant j'en ai plus parce que j'ai diminué, ouais, pour faire d'autres choses aussi.
Donc voilà. Du coup, vous êtes un semi-audacieux, vous n'avez pas osé lâcher votre trapèze.
Eh non, parce que j'avais quelques enfants à ma charge, hein, puisque j'étais un père avec ses enfants, donc c'est moi qui avais la charge pendant quelques années. Donc je ne pouvais pas sauter de l'un à l'autre, parce qu'il fallait quand même que j'assure la suite et la subsistance pour mes enfants.
Donc c'était une passion finalement qui a pris sa place, mais qui a fait quand même une partie de vos activités professionnelles. Enfin, une partie aujourd'hui de votre temps est quand même consacrée au tantra.
Tout à fait. Alors, une grande partie. Et de temps en temps, je travaille encore un petit peu comme ingénieur, mais plus tellement en développement, plus en donnant des cours, en racontant mon expérience, quoi. Donc, voilà.
Mais c'est quand même deux mondes et deux vies qu'on imagine difficilement conciliables. Encore une fois, image bête, brute et tout ça, mais c'est difficilement conciliable. D'un côté, l'ingénieur extrêmement technique, et là, on est quand même clairement dans le spirit, même si on est dans le corps, on l'a bien compris.
Mais oui, tout à fait. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours essayé d'avoir les deux facettes, hein, parce que, bien sûr, en informatique, on travaille beaucoup du chapeau. Hein, vous voyez, donc, trouver aussi des choses pour le reste du corps. Donc, j'ai commencé par faire une formation de massothérapeute. Donc, j'ai ouvert un cabinet de massage, tout ça, et en parallèle à mes autres activités. Vous voyez. Et finalement, ce centre pour le tantra, pour le développement personnel. Ici à Neuchâtel, dans une ancienne fabrique d'horlogerie, en fait, bien neuchâteloise. Ouais.
Et vous remettez les pendules à l'heure d'une autre manière.
Voilà, tout à fait.
Hein. Ça. Donc ça veut dire, en l'occurrence, là, sur votre histoire à tous les deux, c'est l'amour qui vous a fait changer de vie. C'est magnifique.
Oui, oui, oui. Oui, non, mais c'était vraiment important parce que j'étais très partagée pendant un temps parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, ça me passionnait. Et en même temps, je crois que j'arrivais à un âge où je me suis dit, le temps qui me reste à vivre n'est peut-être pas aussi important que celui que j'ai vécu. J'ai pas envie de faire les mêmes bêtises, de me plonger à 100% ou 150% dans le travail.
Donc c'est la fameuse crise du milieu de vie quand même, dont on entend assez parler.
Oui, je crois que c'est une crise qui est saine en même temps, qui permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Les enfants grandissent, quittent le nid. On se rend compte qu'il est peut-être encore temps de prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Et puis de vivre de belles années. Et ce qui était intéressant dans notre cheminement, c'est qu'on a aussi créé d'autres bébés qui sont ces stages qu'on a développés. Parce qu'au départ, il y avait juste une chose, hein, il y avait des initiations et du massage couple. Mais on a développé beaucoup de choses. On a développé des formations individuelles, on a développé des formations pour couple. Et j'adore la façon dont on travaille ensemble, quoi. On se régale, on rit beaucoup et puis on concrétise des choses sympas.
Et l'avantage, c'est qu'en rencontrant Martine, finalement, vous avez pu aussi aller creuser plus loin dans le sillon que vous aviez déjà commencé à creuser avant de la rencontrer.
Ah oui. Ah, disons, le premier saut que j'ai fait, c'est de quitter le monde académique, parce que j'enseignais à l'université à Berlin. Donc mes collègues m'ont dit, mais tu vas quitter tout ça, c'est dommage. Alors je suis allé dans l'industrie, et puis là j'ai travaillé quelques temps dans l'industrie pour ensuite faire un autre saut, pour me mettre à mon compte. Hein, mes collègues me disaient, mais pourquoi te mettre à ton compte, un bon poste, hein, t'es cadre dans une grande entreprise, tu vois. Alors je me suis mis à mon compte, d'abord pour faire de la musique, ensuite j'ai développé ça, ensuite ça a grandi, et maintenant ça a diminué.
Dans la mesure où nous avons traversé nous-mêmes un certain nombre de difficultés dans nos vies, nous sommes capables de dire, mais c'est possible. Hein, il y a une porte de sortie, il y a de la lumière au bout du tunnel. On n'est pas obligé de tourner comme un hamster dans sa cage pendant des années.
Donc ça veut dire que vous, Martine et vous, Michel, finalement, en accompagnant les gens sur une thérapie avec des méthodes que sont la méditation, que sont le tantra et autres, vous les amenez aussi à être audacieux, à changer peut-être de vie aussi.
Tout à fait. J'aimerais dire quand même que c'est pas une thérapie, hein. Donc, si des gens ont vraiment besoin de soins dans ce sens-là, on leur conseille d'aller voir un thérapeute. Donc, le tantra, c'est un chemin de développement personnel. Mais alors, quand même, on secoue le bocal, si vous voulez. Hein, on travaille sur les émotions, ça veut dire ça, vraiment, on les célèbre, on les laisse sortir, on les accueille. Tu vois, ce qui fait que ça remue beaucoup. Ça peut faire remuer beaucoup les gens. Quand ils sont connectés à leurs émotions, que ce soit de la colère, ou de la tristesse ou de la joie, c'est les émotions, c'est la vie.
Alors moi, je trouve que c'est aussi intéressant, cette audace, parce que ça permet véritablement, nous on a pu l'observer en tous les cas au travers des différents stages qu'on a pu voir, c'est comment d'un seul coup certaines personnes prennent la mesure de tout ce qu'ils n'ont pas osé faire et que d'un seul coup ils s'en sentent le courage sans que ça leur paraisse une montagne à grimper. Ce que nous les invitons souvent à faire, c'est de le prendre le temps de la réflexion en sortant d'un stage, parce que quand on sort d'un stage, on est boosté. Et l'envie, c'est parfois de tout changer, de passer du tout au rien. Donc on leur dit, laissez passer un mois, réfléchissez, laissez retomber un petit peu, observez. Et nous sommes toujours très présents après les stages aussi pour permettre aux gens, lorsque quelque chose a été très remué, de les accompagner en les revoyant, en les écoutant, voire en les envoyant sur des thérapeutes que nous connaissons pour pouvoir leur permettre de continuer un bout de chemin. Hein, parce que c'est très important, quand on est dans une énergie, parfois l'envie c'est de « waouh, je change, je passe à autre chose », mais après l'énergie du dehors elle n'est pas tout à fait la même. Et puis ce qui est difficile, c'est l'entourage qui de temps en temps a envie de vous remettre dans les bons rails qui étaient ceux qu'ils connaissaient, parce que le changement les perturbe. Donc comment je peux accompagner mon propre changement tout en étant OK par rapport à moi, et si je dois faire des choix à l'extérieur, eh bien je sais que tout choix est un renoncement. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir que j'accepte aussi ces renoncements. J'accepte ce qui se passe à l'extérieur, mais ça demande à être sacrément solide à l'intérieur pour être dans ce cheminement-là.
I'm gonna change one day. C'était Howlong Wolf.
Ils ont changé de vie, par choix ou par obligation. Ils se racontent chaque après-midi de l'été sur la première.
On est un vrai couple. On n'est pas un couple d'animateurs. On est un vrai couple dans la vie aussi. Ce qui rend sans doute plus crédible tout ce qu'on propose.
Depuis 10 ans, Martine et Michel se sont trouvés. Ils ont mis en commun leur envie de s'occuper de l'autre, de proposer du développement personnel, proposer du mieux-être. Ils l'ont fait ensemble, ils ont suivi des formations pour devenir ces spécialistes du tantra. Leur audace, ils l'ont mise au service de leur pratique et transmettent, canalisent les énergies de ceux qu'ils accompagnent. Pour vous, Martine et Michel, quelles sont les qualités nécessaires au changement?
Moi, je pense que c'est d'avoir confiance. Ça, je pense, c'est la toute première chose. Ne pas avoir peur. Hein? Si j'ai peur, je ne vais pas pouvoir sauter. Je ne vais pas pouvoir changer. Moi, j'ai une assez grande confiance dans la vie, en fait. C'est ça qui m'a aidé.
En croyant la chance, ou ce n'est pas de la chance, justement?
Ce n'est pas vraiment de la chance. De la chance aussi, j'en ai. Ouais. Mais c'est aussi une façon de se dire, oui, ben, j'accepte, j'accueille ce qui vient. Voilà. Je fais tout ce que je peux pour que ça se passe, mais finalement, c'est quelque chose, une grâce, quoi.
Et puis en même temps, d'accepter parfois l'échec. C'est-à-dire que ne pas considérer que quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'on est mauvais. C'est peut-être parce qu'on ne l'a pas bien imaginé, qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout d'un projet. Ça nous arrive de temps en temps de faire quelque chose, ou une conférence, ou un atelier. Ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait pensé. J'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels. Quand j'ai travaillé chez Psychologie, je travaillais avec les Servan Schreiber, et qui m'ont toujours appris, à la fin d'un projet ou autre, même si c'était super, de dire « mais comment on aurait pu faire mieux ?» Donc ça, c'est vraiment une façon de voir les choses qui me paraît extrêmement positive. Et ça, je crois qu'on a mis en application, en offrant à d'autres, ce que nous avons même nous mis dans notre mode de fonctionnement pour ce changement. Hein, d'accepter chaque étape et de se dire « il y a des moments, j'ai peut-être un peu les papilles, j'ai un peu peur, j'en parle avec lui. » Il me dit « mais de quoi t'as peur ?» Et ça désamorce. Il me dit, on en parle si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Et à partir du moment où je mets les choses à plat, ben, la peur, elle diminue. Hein, donc ça, c'est toujours. Puis c'est vrai que lui, il est hyper positif. Donc il me fait un bien fou.
Mais justement, par contre, le mot peur, s'il ne fait pas partie du vocabulaire apparemment de Michel, est-ce qu'il a fait partie, ou est-ce qu'il fait toujours partie d'ailleurs de votre vocabulaire? Parce qu'elle est souvent là dans les changements de vie. Et là, vous avez pris, en l'occurrence par rapport à Michel, vous avez pris des vrais risques en changeant de vie, changeant de pays, changeant de job.
Tout à fait. Non, la peur a été très très longtemps présente dans ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai écrit un livre, hein, parce que ça a été quelque chose qui m'a envahi. J'ai eu pendant une période de vie, j'ai eu des crises de panique, j'ai eu des crises d'angoisse, donc je sais ce que c'est que la peur. Hein. C'était quelque chose qui habitait chacune de mes cellules. Donc j'ai fait évidemment un travail thérapeutique pour comprendre, j'ai fait tout un cheminement, mais ensuite quand j'ai réussi à me libérer de ça, c'est comme si on m'avait enlevé un énorme poids. De temps en temps je sens des petits signaux, mais dans ce cas-là je me regarde, je me dis bon, t'as peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je redescends. Ça ne me prend plus tout l'espace comme ça prenait quand j'avais 30 ou 40 ans.
Et c'est aussi dans le regard des autres parfois que la peur naît. C'est-à-dire que quand vous décidez, quand vous commencez à verbaliser un changement de vie, alors je ne sais pas comment vous l'avez fait au travail ou auprès de vos proches, en disant, ben voilà, je vais partir, je vais quitter mon boulot, je vais commencer une nouvelle vie, je vais changer de pays. Il y a le regard des autres aussi qui, parfois, peut aussi vous désécuriser, non?
Oui, mais ça, j'avais déjà réglé pas mal de choses en faisant toutes mes approches thérapeutiques. Parce que le regard des autres, il a été très prégnant, notamment le regard de ma maman. J'ai une maman qui est d'une angoissée... voilà, c'est très existentiel chez elle, donc ça a été très fort dans sa façon d'être. Mais à partir du moment où j'ai pris ma décision, il y avait à la fois la peur des autres, mais surtout leur envie. Il y avait les deux, en disant « j'aimerais bien faire comme toi, quelle chance tu as !» Je dis « non, mais ce n'est pas une question de chance, c'est qu'à un moment donné, je me sens prête. » Je me sens prête à y aller, et ça a été un cheminement, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait en 24 heures. Ce cheminement, je pense qu'il a peut-être pris 10 ans, même avant. Il n'y avait pas que le fait d'avoir rencontré Michel, je pense que tout le travail que j'avais fait avant m'a permis d'être prête au moment où c'était possible. Donc ça relativise aussi peut-être cette décision qui de l'extérieur peut paraître audacieuse, mais qui pour moi, à un moment donné, me paraissait juste. C'était le bon moment pour passer à autre chose.
Donc Michel, vous l'avez rencontré, combien de temps vous avez mis avant de vous dire « allez, je traverse la frontière » Le calendrier a ressemblé à quoi?
Le calendrier, il a mis quoi? Un an et demi.
Ouais,
un an et demi, et puis je faisais beaucoup d'allers-retours, et puis j'ai repris pendant un temps une mission extrêmement importante à Paris pour le lancement d'un autre magazine. Pour Clé, le lancement de magazine Clé, et puis et je continuais à faire tous les stages le week-end, donc je travaillais la semaine, je faisais les stages le week-end, et puis au bout d'un an, on a discuté tous les deux en disant « je crois que ça va pas être possible ». Et donc j'ai prévenu mes patrons en disant « mais je crois que ma vie, elle est vraiment ailleurs, maintenant j'ai plus besoin de ça ». Peut-être que j'avais besoin de cette piqûre de me rappel pour me rendre compte que ma vie était ailleurs. Voilà, et donc je suis passée à autre chose, et vraiment je regrette pas une demi-seconde. Mais j'ai eu ce besoin d'aller revisiter un peu de l'autre côté pour être sûre que c'était bien le bon chemin.
Paris, vous en aviez eu assez? C'était aussi assez clair, hein? Parce que c'est un vrai changement, enfin, je veux dire, arriver dans une ville comme Neuchâtel après avoir vécu toute une vie à Paris.
J'avais pas assez de Paris, j'aime ma ville. Hein, j'aime ma ville et j'y vais tous les mois. Je viens passer une semaine à Paris, d'une part parce que j'ai ma maman, j'ai mes enfants, j'ai mes amis. Donc j'aime beaucoup ma ville. Mais j'apprécie beaucoup Neuchâtel et puis j'apprécie beaucoup le fait d'y vivre avec Michel. C'est aussi ça, c'est tout l'environnement et tout ce qu'on peut faire ensemble. Je serais sans doute pas venue à Neuchâtel si j'avais pas rencontré Michel. Voilà, donc l'un complète l'autre, hein, mais je savais même pas que ça existait.
Et ouais.
Vous ne saviez pas que Michel existait?
Non, ouais, ni que lui existait, ni que Neuchâtel existait.
D'ailleurs, son ex-mari avait dit, mais tu vas t'habituer à vivre dans une ferme. Il imaginait qu'elle allait atterrir quelque part en pleine campagne, que moi je courais après les vaches, des choses comme ça. Voilà.
Ah, les clichés ont la peau dure.
Ah, oui, c'est dur. Oui.
Alors du coup, on a fait une photo. J'ai mis un vieux chapeau, j'ai pris une chemise d'armaï et une fourche à la main, et on lui a envoyé cette photo.
Est-ce qu'il y a eu des surprises?
Alors, la plus grande surprise, c'était de rencontrer Martine. Ça, c'était une surprise. Et puis après, je me suis surpris moi-même en trouvant que, voilà, j'allais m'engager avec elle. Voilà, donc, ouais, à un moment, je lui avais dit, tu es ma Shakti choisie. Shakti, c'est la déesse en Inde. Hein. Voilà. Ouais, je ne pensais pas que c'était si facile de m'engager. Voilà.
Oui, je dirais que depuis qu'on se connaît, c'est assez fluide. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas eu de difficultés. Parce que nous avons aussi fait beaucoup de stages à titre personnel, en développement personnel. C'est-à-dire que dans la mesure où nous accompagnons des gens dans des stages, nous ressentons tous les deux le besoin aussi de faire des choses pour nous, pour pas que ça nous monte trop à la tête, hein, pour rester les pieds sur terre. Et puis pour se mettre aussi dans des situations parfois d'inconfort. Et moi, ce que je trouve extrêmement précieux, c'est qu'à chaque fois, ça nous a fait monter des marches. Ça nous a permis de nous connaître mieux, ça nous a permis d'ouvrir le cœur encore plus, d'accepter. Moi, je me suis sentie acceptée aussi dans ma vulnérabilité, dans certains moments où je me suis sentie fragile. Et à chaque fois, Michel m'a accueillie, m'a accompagnée. Donc moi, ça m'a permis d'avancer avec des bottes de 7 lieues. Donc ça, c'était super.
Les enfants, d'un côté comme de l'autre, ont trouvé que c'était une bonne idée que vous fassiez votre chemin.
Disons, les enfants, ils sont déjà grands, hein, donc ils étaient déjà grands quand ils s'est rencontrés. Alors au début, ils étaient un peu sceptiques, ils regardaient un peu comme ça, mais ils se sont très vite habitués et on les a adoptés mutuellement. Hein. Donc moi, j'ai adopté ses enfants, elle a adopté les miens. C'est arrivé une fois que moi, j'étais à Paris pour un travail, Martine était à Neuchâtel, donc c'était l'inverse. Moi, j'avais invité ses enfants, on est allés manger ensemble, et en même temps, Martine mangeait avec un de mes fils ici à Neuchâtel. Oui, on les a adoptés, et puis ils s'entendent bien entre eux. Donc, bon, ils ne se voient pas très souvent, parce qu'ils sont un peu partout. Hein. Martine en a 3, moi j'en ai 4. Ouais, donc, on a une petite famille de 7. Ouais.
Pas mal.
Voilà, alors c'est pour ça que j'ai acheté des tentes de fête pour quand il y a tout le monde, pour quand on fait des grandes fêtes. voilà. Parce qu'avec les compagnons, compagnes de chacun, ça fait bien du monde.
Ça fait une belle tribu.
Une belle tribu.
Une belle tribu, oui. Mais je dirais que par rapport à peut-être certains couples où on se rend compte avec des enfants plus jeunes, nous, on a eu la chance que nos enfants étaient déjà grands. Mmh. Donc, il n'y avait pas de difficultés. Et je pense qu'avec l'âge, on a aussi cette expérience. Moi, quand j'ai mon premier mariage, mon ex-mari avait 2 grands-enfants. Ça a été inconfortable par moment pour moi parce que c'est trouver sa place juste par rapport à l'enfant de l'autre, ça peut être difficile. Et je disons que j'avais déjà fait une école supérieure en faisant ça. J'étais déjà bac plus 10 avec cette formation. Donc c'est comprendre que voilà, rien n'est acquis, attendre, accueillir et puis ne pas chercher à prendre la place qui n'est pas la nôtre. Quoi. C'est très important. Ouais.
Le bruit des canons, le fracas d'un troupeau de bisons, les bottes qui claquent à l'unisson font plier les ponts. Un brin d'ironie souffle sur la vie. Le vent se lève et toi aussi, toi, tu sais prendre les choses à la légère. Toi, tu sais faire une pause, un grand désert sur le noir, le morose.
fait des courants d'air. Toi, tu sais prendre les choses à la légère. Carme. Tu bats des ailes à contre-courant quand vient sonner l'alarme. Un brin d'ironie souffle sur la vie. Le vent se lève et toi. C'est prendre les choses à la légère. Toi, tu sais faire une pause, un grand désert. En secret, tu composes, tu fais pas tonnerre. Toi, tu sais prendre les choses. À la légère. À la légère.
À la légère, c'était Féloche.
Les audacieux ont changé de vie. Ils nous racontent leur histoire tous les après-midi sur la première.
Je ne savais même pas que ça existe. Ouais.
Son ex-mari avait dit « Mais tu vas t'habituer à vivre dans une ferme ?» Il imaginait qu'elle allait atterrir quelque part en pleine campagne, que moi je courais après les vaches, quelque chose comme ça. Voilà.
Martine a durant 30 ans été communicante. Elle a travaillé à Paris dans la presse, notamment pour Psychologie Magazine. Elle faisait de la pub et vivait un rythme parisien, une femme très active. Et puis l'amour a croisé sa route. Michel était là, l'ingénieur en informatique qui avait découvert le tantra quelques années plus tôt. Rencontre, déménagement, travail ensemble, et puis des enfants, 7 en tout. Y a-t-il des regrets? Si regrets il y a d'ailleurs.
Oui, le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Oui.
Est-ce que vous avez attendu quel âge, Michel, finalement, pour vous y mettre?
Autour des 40 ans. Maintenant, j'en ai 71. Donc, voilà, autour des 40 ans. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup avec mes anciennes compagnes, avec les difficultés que j'ai eues aussi. Tout ça, ça m'a... C'était aussi une bonne école. Hein. C'est peut-être pas l'école supérieure de Martine, mais c'était une très bonne école aussi. Ouais.
Mais ça vous a payé aussi, pardon, mais ça vous a payé aussi cette vie-là. C'est-à-dire que voilà, le fait d'avoir travaillé, donc au niveau du choix professionnel que vous aviez fait dans une première partie de votre vie, vous n'avez pas de regrets.
Ah, pas du tout. Non, non, moi je trouvais que c'était un choix très intéressant, quoi. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime l'industrie, j'aime ça. J'ai été longtemps président des clubs des créateurs d'entreprises, tu vois. Donc, c'est magnifique, moi, je trouve. Moi, j'aime le monde industriel, hein. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et de travailler là-dedans, ça me plaît bien aussi, ouais.
Martine, sur le parcours, vous avez des regrets?
Non. Fondamentalement pas, parce que je crois que chaque étape m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Hein, même s'il y a eu des moments difficiles, mais à chaque fois, j'ai essayé d'essayer de comprendre, parce que j'ai cette approche depuis que je suis toute jeune, essayer toujours de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une période de crise. Puis je cite souvent un livre qui est mon livre de chevet, que je relis chaque année, qui est un livre de Christiane Singer qui s'appelle « Du bon usage des crises », parce que je crois que c'est toujours une opportunité d'avancer. Et ça m'a permis, à titre personnel, d'évoluer, d'avancer, et puis surtout de garder des liens très forts avec ma vie d'avant. J'ai vraiment des liens très forts avec les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai des liens très forts avec mon ex-partenaire. Il y a beaucoup de respect entre nous. Donc, j'ai vraiment avancé vers quelque chose qui est plus ce qui me semble être moi aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui, c'est possible parce que j'étais aussi tout ça avant. Donc, je regrette rien.
Encore un tournant prévisible ou possible de vos vies respectives ?
Pour le moment, je ne sais pas. Ouais. Mais disons, je suis à un changement de septaine. Moi, je compte les septaines. Donc, à chaque changement de septaine, j'avais eu des grands changements. Alors, le tournant qu'on a maintenant, c'est qu'on va quitter ces locaux. Donc, ça, c'est certainement un tournant parce que on va complètement changer notre façon de faire. On va continuer de donner des stages. On va les améliorer encore. Mais là, on n'aura plus notre lieu.
Ici à Neuchâtel.
Ici à Neuchâtel, ouais. Voilà, parce que l'immeuble va être transformé en appartement et en bureau. Et donc, on va quitter et on ne va pas reprendre un autre lieu. On va devenir sans domicile fixe, comme j'ai dit, si on peut dire. Et on va aller vers nos participants. Voilà, donc on va devenir nomade. Il va falloir qu'on s'habitue à passer d'un endroit à l'autre. Et c'est des endroits qui ne sont pas les nôtres, donc ils ne sont pas aménagés comme nous, on a l'habitude de le faire. Voilà, donc ça va être un changement certainement.
Mais c'est quand même une sacrée page, parce que vous me disiez, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans cet endroit.
Voilà, au début c'était tout autre chose. Au début c'était ici le premier accès internet public de la région. Ouais.
Il a tout fait.
Donc j'avais, ici c'était mon bureau d'ingénieur. Ouais, et quand je suis arrivé ici, c'est tellement magnifique la vue qu'on a. J'ai pas beaucoup travaillé les premières semaines, je regardais surtout le lac et toutes les couleurs qui changeaient sur le lac et tout ça. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a ici encore 80 lignes téléphoniques qui arrivent, parce qu'à l'époque, c'était le premier accès Internet de la région. Ouais.
Donc, vous aviez ouvert ce lieu au public pour qu'ils viennent se connecter sur des ordinateurs que vous mettiez à disposition, c'est ça ?
Aussi. Il y avait d'une part, ils pouvaient prendre des abonnements, d'autre part, j'avais ici un café Internet. Voilà. Donc, les gens pouvaient venir prendre un café et puis surfer sur Internet. Voilà.
Et aujourd'hui, ça devient un lieu où on a vécu ce qu'on a vécu tout à l'heure, voilà. C'est-à-dire la méditation. Comme
tout
quoi, hein.
Tout...
ça, c'est quand même un drôle de zèbre, hein, votre Michel.
Il est assez étonnant parce que quand il dit qu'il n'a pas fait grand-chose, quand on l'écoute au fur et à mesure, moi, à chaque fois que je l'écoute parler, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Je dis, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie? C'est pas possible. Il est parti faire 6 mois de la musique au Cap-Vert, il a fait un café Internet. Et voilà, il est super. Moi, j'ai un kit tout en un. C'est comme les couteaux suisses.
Finalement, vous avez rencontré le couteau suisse de votre vie.
Ah, voilà, le couteau suisse. Je ne connaissais pas sous cette forme-là, mais non, je suis très heureuse de l'avoir rencontré.
Et pas de regret, Martine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors il y a l'écriture aussi, qui fait partie de votre vie, en plus des cours, en plus des ateliers que vous donnez avec Michel. L'écriture, c'est un sillon que vous allez encore continuer à creuser.
Oui, c'est très nouveau, hein, l'écriture. Mais ça a été vraiment une très belle expérience. On a fait chacun ça de notre côté.
Vous n'avez pas écrit ensemble. Tiens,
non,
oui,
non,
c'est
non,
vrai.
Non, non. Il a commencé par écrire un livre. D'ailleurs, il me disait, je veux écrire un livre sur le tantra depuis plusieurs années. Je dis, si tu veux écrire un livre sur le tantra, tu t'y mets, mais je te lâche plus. Donc, il a commencé à écrire, puis sans arrêt, j'étais sur. Et je pense que ça a été sympa. Et puis, moi, j'ai fait ça 2 ans après, sur le livre du toucher d'amour. Et ça a été aussi très, très chouette, parce que Michel m'a aidé, c'est lui qui a fait la couverture, c'est lui qui m'a fait tous les dessins. Donc, là aussi, il y a un travail commun, mais sur des territoires différents. Et là, on a encore un projet, et un livre différent, mais où on va échanger nos infos. Comme on n'est pas chez le même éditeur, on ne peut pas faire autrement, mais c'est très riche. On fera chacun notre bébé, mais on va se le dorloter chacun de notre côté. Bon, ça sera intéressant, parce que ça sera vraiment là, plus sur le tantra, tous les deux.
Ce qu'on fait en commun, juste pour compléter, hein, ce qu'on fait, on écrit pas mal d'articles. On nous demande de faire des articles. Alors là, on travaille de la manière suivante, on en discute un peu. Ensuite, chacun de son côté fait son texte. Et ensuite, on les met ensemble et puis on en fait la synthèse. Voilà.
Et ne me dites pas que vous écrivez la même chose chacun de votre côté. Là, ce serait quand même exagéré.
Non.
Justement, ça se complète et ça, c'est très intéressant. C'est parce qu'au départ, quand on commençait à faire cet exercice, des fois, c'était vraiment radicalement différent. Et les 3 derniers papiers qu'on a faits, c'est super complémentaire. Et je me dis, c'est vraiment la vision de la femme, la vision de l'homme, et ça se rejoint et c'est super. Donc là, c'est vraiment intéressant comme façon d'écrire. Moi, j'aime bien qu'on puisse faire ça comme ça.
Donc ça, on a commencé aussi avec les conférences. On fait les conférences à deux. Au début, je faisais les conférences tout seul. Et la première fois qu'on a fait, ça c'est une anecdote, hein, la première fois qu'on a fait la conférence à deux, on était dans un château, là, ouais, qui faisait chambre d'hôte. Et moi, je me suis levé assez tôt, j'étais un peu stressé parce que c'était nouveau, hein. Donc, je vais à la salle de bain, je me casse la figure dans la salle de bain et je me déchire les ligaments du genou. Hein. Donc, c'était je, nous. Hein.
Je sais bien, tu me fais
jusqu'à présent, c'était je faisais la conférence, maintenant c'était nous. Voilà.
Et ça s'est super bien passé.
Oh. Mais ça s'est très bien passé, finalement. Bon, j'avais mal.
Finalement, hein. Martine a dû faire toute seule, c'est ça?
Non. J'avais des morceaux de glace que j'avais mis. Et depuis, on fait les conférences à deux et ça marche très bien parce que les gens aiment bien parce qu'ils voient les deux côtés, hein, donc l'aspect féminin, l'aspect masculin. Et en général, pas toujours, mais en général, on arrive bien à s'entendre. On se fait juste un clin d'œil et puis on sait qu'il faut changer, ouais. Voilà.
Mais c'est encore aussi caricatural, l'aspect féminin, l'aspect masculin. On sait que vous donnez des stages pour les hommes, des stages pour les femmes. Enfin, il y a encore cette dichotomie. On est des individus, des bipèdes. On va s'en sortir dans un grand débat, mais non, mais quand même, c'est encore si fragmenté. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
C'est pas sous cet angle-là qu'on en parle, parce que à l'intérieur de chaque être humain, il y a les deux aspects, féminin, masculin. Mmh. Hein, le féminin, c'est sur l'accueil des émotions. Le masculin, c'est la mise en action des projets. Et c'est vrai que nous avons parfois une perception un peu différente, et puis en fonction de notre parcours. Michel, c'est un positif, un optimiste né. C'est extraordinaire. Moi, j'ai plutôt un tempérament plus prudent, parfois plus méfiant, parfois plus anxieux. Donc, c'est vraiment intéressant quand on travaille comme ça, parce que je lui apporte parfois le cadre, où il partirait peut-être un petit peu dans tous les sens. Et puis lui, il me restaure un peu cette confiance dont j'ai besoin de temps en temps, notamment avec ces changements que nous allons faire. Hein. On va aller dans des endroits où on ne connaît pas. C'est à la fois très excitant et en même temps, c'est nouveau. Donc ça, c'est confrontant par moments. Est-ce que c'est juste ou pas? On verra. Mmh. C'est une expérience à vivre et d'une certaine façon, je trouve ça plutôt excitant.
Vous diriez, Martine, depuis que vous avez rencontré Michel, qu'il vous a changé?
Je ne sais pas s'il m'a changé. Je pense qu'il m'a aidé à grandir. Il m'a aidé à grandir, à oser plus. Parce que quand je le vois fonctionner, c'est vrai qu'il est... Cette confiance inébranlable qu'il a sur tout, moi, il m'a beaucoup aidé sur ça. Sur l'écriture du livre, sur le fait d'écrire des papiers, sur le fait d'animer seul certains stages. Ça m'a beaucoup apporté.
Donc vous êtes une sorte de grand parapluie, Michel. Quand on est sous votre protection, rien ne peut nous arriver.
Un petit quad parapluie.
Bon, je peux pas vous épargner la question.
Oui, non.
Évidemment.
Martine m'apporte beaucoup, hein, parce que alors ce que je trouve magnifique chez Martine et que j'ai pas rencontré chez mes précédentes compagnes, c'est qu'elle me prend comme je suis. Toi, elle cherche pas à me changer. Voilà. Donc ça me donne confiance aussi, hein. Donc ça c'est magnifique. Ça c'est extraordinaire. Ça j'ai jamais vécu avant qu'on me prenne vraiment comme je suis, quoi. Bon, de temps en temps elle me fait des remarques quand même, hein, ça c'est normal. mais fondamentalement je me sens accueilli comme je suis et moi je l'accueille aussi comme elle est.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux, à l'unisson? Vous avez une chose? Même s'ils n'ont plus de lieu, ils ont encore et toujours l'envie de faire des choses ensemble. Mais parfois, tout de même, chacun mène son bout de chemin. Ils écrivent des livres séparément. Celui de Martine s'intitule « Le toucher d'amour, rencontre avec le Sensitive Gestal Massage ». Il est paru aux éditions Favre. Le livre de Michel Berger s'intitule « Le Tantra, un art de vivre, un art d'aimer ». Il est paru chez Trédaniel en 2013. L'actualité est en lien sur leur site, il s'appelle Wellness Flow. Somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, I know. Somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, I know. John's in love with John, John's in love with Jim, Jim's in love with someone I know, yeah.
she's the girl I'm thinking of. Just a minute, baby. Won't you take me back again? John's in love with Joan. Joan's in love with Jim. Jim's in love with someone I know, yeah. Joan's the only girl. She's the one I love. She's the girl I'm thinking of. Somebody's in love with somebody. Somebody's in love with somebody. Somebody's in love with somebody.
Florence Farion, David Golland et François Piton vous ont proposé Les Audacieux. Lundi, nouvel épisode des Audacieux, 14h sur la première.
Il est déjà 15h.